Prions ensemble, chers amis, que le Seigneur soit avec nous lors de cette prédication. Que celui qui a des oreilles entende. Et nous te prions, Seigneur, que tu nous ouvres donc des oreilles ce matin pour entendre ta voix. Nous te prions que tu te glorifies, que nous soyons davantage, d'autant plus persuadés que Jésus est digne de toute louange. Et cela, nous te prions pour ta gloire. Amen. Amen. Mais moi, j'ai vu sur le site de l'RTBF, il y a moyen apparemment de faire des tests électoraux en ligne pour savoir comment vous pouvez voter. Découvrez, dit le truc, quel programme vous correspond le plus en répondant à quelques questions. Je ne sais pas si vous l'avez fait. Un moyen de découvrir quel est le parti qui correspond le plus à vos priorités. À vous, en quelques minutes, vous répondez à différentes propositions. Ce n'est pas trop tard, je pense que vous pouvez encore le faire en rentrant si cela vous intéresse. Des propositions telles qu'il faut revenir à la pension à 65 ans, ou les techs doivent être privatisés, ou un plus grand nombre de vaccins doivent être rendus obligatoires, etc., etc. Vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord, vous cliquez et vous verrez après quel est le programme qui est pour vous le plus proche de vos priorités. Donc, ça, c'est une possibilité. Ce matin, Matthieu nous propose deux questions, non pas plusieurs questions, simplement deux questions, pour faire un test de notre foi. De notre foi. Sans doute, nous avons nos propres questions à propos de la foi et à propos de Jésus, mais c'est toujours utile de trouver des questions que la Bible elle-même nous propose, car nous pouvons être sûrs que de telles questions sont des questions importantes, parce que Dieu met ces questions dans sa parole pour stimuler une réaction de notre part. Ah, donc, sans tarder, prenons la première question du texte que nous avons vu, au verset 3, chers amis, au verset 3. Une question posée à Jésus par des disciples de Jean le Baptiste, envoyé par Jean. Je pense qu'on peut le mettre sur l'écran, hein, si tu veux, Kuhn, c'est gentil. Verset 3. « Est-ce toi, celui qui vient, ou devons-nous en attendre un autre ?» C'est ça sa question. « Est-ce toi, celui qui vient, ou devons-nous en attendre un autre ?» Mais pourquoi une telle question de la part de Jean-Baptiste ? Jean apparaît dans ce récit de Matthieu à partir du chapitre 3. Et comme peut-être vous le savez, c'est un prédicateur puissant qui annonce la venue du royaume des cieux. « Repentez-vous, disait-il, car le royaume des cieux est proche. » Et si lui, il baptisait dans l'eau, en vue de la repentance, c'était le cas, celui qui l'annonçait, il disait, baptiserait d'Esprit Saint et du feu. Donc le rôle de Jean-Baptiste, c'était de préparer le chemin pour la venue du Seigneur. Le Seigneur qui brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint pas. Tout ça, on lit dans le chapitre 3 de l'évangile de Matthieu. Mais depuis l'annonce de la part de Jean le Baptiste de la venue du Messie, Jean lui-même a été arrêté pour cause de condamnation de sa part du mariage illicite d'un des responsables de l'époque, Hérode. Il se trouve en prison. Et c'est de là où Jean, il entend parler des œuvres de Christ. Bien sûr, Jean s'y intéressait. Il avait entendu parler certainement des miracles opérés par Jésus que nous avons parcourus dans notre lecture jusqu'ici de l'évangile de Matthieu. À partir du chapitre 8, on entend parler de beaucoup de miracles différents de la part de Jésus. Des guérisons, des prodiges de tout genre. Mais le problème, c'est que les circonstances de Jean ne changent pas. Il se trouve toujours en prison. Et donc, nous imaginons un peu perplexe et sans doute un peu découragé, Jean envoie ses disciples à Jésus pour lui poser sa question. « Est-ce toi, celui qui vient, ou devons-nous attendre un autre? Est-ce que vous entendez? Je pense que c'est là le doute au sujet de Jésus de la part de Jean. Qui es-tu, Jésus? Pour finir, c'est pour cette raison-là que le premier point s'appelle sur le feuillet, sur le dos, si vous voulez suivre cela. Jésus, qui es-tu? Est-ce que tu es bel et bien le Christ? Mais si oui, qu'est-ce qui m'arrive à moi? Pourquoi je me trouve encore en prison? Comment peux-tu être le Christ si on ne voit pas encore ton royaume venir dans toute sa puissance? Où se trouve le jugement qui doit attendre nos ennemis? Alors ça, c'est une bonne question, n'est-ce pas, de la part de Jean. Et je pense que cette question se pose encore de manière semblable aujourd'hui. D'abord par ceux qui regardent le mal autour d'eux et qui se disent, mais comment se fait-il que le mal continue à exercer une influence aussi profonde dans notre société? Dans notre monde, peut-être dans notre vie personnelle. Si Jésus est réellement le Christ, loin de Dieu, il est venu, ben pourquoi autant de mal? Ou bien peut-être si nous sommes croyants ce matin, nous pouvons nous décourager également en disant, pourquoi une telle chose m'arrive encore à moi personnellement? Je crois en Jésus, le Christ, le Tout-Puissant. J'échangeais avec un ami rien qu'hier soir, qui me disait que son épouse vient d'avoir une mastectomie, et cela lui a fait questionner sa foi. Dans un sens, c'est normal, n'est-ce pas? Où est la victoire à ce moment-là, quand on vit de telles choses? Est-il le Christ, pour finir, réellement celui qui m'aime? Et donc, nous avons un intérêt à bien écouter la réponse, mes amis. Jésus répond avec une combinaison de citations de deux prophètes. D'un prophète, Ésaïe. C'est tiré du chapitre 35 et du chapitre 61 du prophète Ésaïe. Donc, allez raconter, dit Jésus à Jean, ce que vous entendez et voyez. Et maintenant, il cite le prophète Ésaïe à partir du verset 5, il dit « Les aveugles retrouvent la vue ». C'est ce que nous avons déjà vu en Matthieu chapitre 9, verset 30. « Les infirmes marchent », c'est ce que nous avons vu au verset 7 du chapitre 9. « Les lépreux sont purifiés », c'était le chapitre 8, verset 3. « Les sourds entendent », ça arrive dans d'autres évangiles. « Les morts se réveillent », chapitre 9, verset 25, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Toutes ces choses-là ont lieu, dit Jésus, actuellement dans mon ministère. Les indices que Jésus est le Messie, donc, sont évidents. Ce ne sont pas des choses qui arrivent tous les jours. Il faut que nous le disions une nouvelle fois. De tels prodiges dans la Bible sont plutôt rares. Ils arrivent à des moments clés dans l'histoire du plan de Dieu. Vous vous souvenez de l'Exode, sûrement. Lorsque le peuple de Dieu est délivré, avec l'aide de Moïse, de l'Égypte, pour pouvoir servir le Seigneur. La délivrance avait été accompagnée, rappelons-nous, par des signes, des prodiges. Les signes qu'opère Jésus dans son ministère témoignent d'un autre moment clé de délivrance pour le peuple de Dieu, car le royaume des cieux est arrivé. Et les miracles, nous l'avons vu, donnent un avant-goût du royaume de Dieu dans toute sa plénitude, un petit aperçu d'un monde meilleur, où il n'y aura plus de mal, plus de maladie, plus de souffrance, plus de mort. Nous avons soif pour ce monde-là, n'est-ce pas? Donc, Jésus, il affirme à Jean qu'il est effectivement le Messie. Mais Jésus savait, et Jean savait, que les prophéties de ce monde meilleur qui se trouve en Ésaïe, parle également de la délivrance du peuple de Dieu à travers le jugement des ennemis du peuple de Dieu. C'était le cas d'une veuve lors de l'Exode, n'est-ce pas? La délivrance pour le peuple de Dieu n'avait lieu que lorsque les ennemis du peuple de Dieu, Pharaon et des Égyptiens, avaient été vaincus par le Seigneur, par des jugements, par des plaies, par la mer rouge qui engloutissait les armées égyptiennes. Et donc, Ésaïe 35, verset 4, juste à côté de ce que Jésus cite, dit ceci. « Dites à ceux dont le cœur palpite, fortifiez-vous, soyez sans crainte. Voici votre Dieu, la vengeance viendra. La rétribution de Dieu, il viendra lui-même et vous sauvera. » Ou Ésaïe 61, verset 2. De nouveau, juste à côté de ce que Jésus cite. Le serviteur du Seigneur proclame un jour de vengeance de notre Dieu pour consoler tous ceux qui sont dans le deuil. Donc les prophéties parlent à la fois, voyez-vous, de la magnificence du royaume à venir, à la fois de la délivrance qui viendra à travers le jugement qui doit tomber sur ceux qui s'opposent à Dieu. Les deux, dans les prophéties, vont de pair. Jean, il sait cela. Jésus, il sait cela. Et c'est pourquoi je pense que Jésus ajoute le verset 6. « Heureux celui pour qui je ne serai pas une cause de chute. » Car le moment où il sera une cause de chute viendra. Le jugement viendra. Ne t'inquiète pas pour ça, Jean. Mais jusque-là, c'est un moment pour se tourner vers moi, pour l'annonce de la bonne nouvelle aux pauvres. Donc ne te trébuche pas, Jean. Pas à cause de moi, je suis le Messie. Patiente, car le jugement viendra. Si vous voulez, c'est un peu comme si on se promène dans la campagne. Je sais qu'on habite en ville et peut-être ça ne nous arrive pas souvent de se promener dans la campagne. Imaginez qu'on est dans la campagne et à l'horizon, quelques kilomètres de là où on se trouve, on voit deux choses. On voit un grand château et un grand arbre à côté du château. Et à plusieurs kilomètres, les deux choses que nous voyons semblent être l'un à côté de l'autre. Mais lorsque on s'y approche, on constate en fait qu'il y a une assez grande distance entre l'arbre et le château. Ce qui semblait être ensemble lorsqu'on était loin se dévoile comme étant une certaine distance l'un de l'autre lorsque on les voit de près. Et je pense que c'est ainsi avec la prophétie. Ésaïe ici donne l'impression, lorsqu'il parle, que le royaume viendra au moment que le jugement tombera. Jean, il avait lu Ésaïe, et c'est bien ça ce qu'il pensait. Mais lorsque Jésus vient, on aperçoit en fait qu'il y a une distance, si vous voulez, entre la venue du royaume dans le ministère de Jésus et son accomplissement final, lorsque le jour de la rétribution de Dieu tombera. Et donc le fait que Jésus soit venu et accompli des miracles qui annoncent la venue du royaume des cieux, mais que Jean reste en prison, il sera d'ailleurs mis à mort, n'est-ce pas, par Hérode, à la suite d'un pari débile que fait Hérode avec sa fille. Mais le fait que ce soit le cas ne met pas en doute l'identité de Jésus-Christ. Le fait que Jésus est venu, maintenant il y a plus de 2000 ans, et cela reste encore le cas que le jugement ultime n'est pas encore tombé, ne met pas en doute l'identité de Jésus. Le fait que je crois en Jésus, et pourtant je dois faire face à des maladies débilitantes ou de la souffrance dans ma foi, ou de la solitude et de l'épreuve, ne met pas en doute l'identité de Jésus. Les injustices que nous subissons restent, pour le croyant d'aujourd'hui, un gros défi. Peut-être ça reste un défi pour vous. Je connais des personnes de cette église, du passé et encore aujourd'hui, qui ont dû faire face à beaucoup d'injustices terribles, chers amis. L'adultère dans le couple, la violence conjugale, le viol, l'abandon de la part des parents, un traitement injuste aussi de la part du gouvernement ou de la commune parce qu'ils se trouvent étrangers dans ce pays. Ces choses, et d'autres encore bien entendu, pèsent pour nous. Nous ne faisons preuve d'aucune joie de devoir subir des injustices. Même une petite remarque, si nous sommes honnêtes, mal placée à notre sujet de la part de quelqu'un de proche ou de la part de quelqu'un d'autre, une petite moquerie au sujet d'un handicap ou d'un trait de caractère dont nous n'avons pas le contrôle, c'est injuste cela. Cela fait de la peine de l'entendre. Nous ne voulons pas vivre dans un tel monde. Jésus, es-tu réellement celui qui devait venir? Et la réponse de Jésus reste le même. Regarde ce que j'ai fait. Regarde mes œuvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une cause de chute. Car le jour de rétribution, de délivrance, viendra. Tout le mal dans ce monde sera réglé. Il n'y a pas de doute. Dieu voit, Dieu n'est pas indifférent. Donc ne perdez pas courage, Jean. Ne perdez pas courage, vous ici, présents. Persévérer. Lorsqu'on vote, on essaie de faire en sorte que le lot du citoyen s'améliore. J'espère que vous votez non pas rien que pour vous, personnellement, mais que vous votez pour les autres et vous essayez de faire ça avec sagesse, de peser les différents programmes afin de voter pour ce qui nous estimons être le meilleur pour notre quartier ou pour notre région ou pour notre pays ou pour l'Europe. Il faut sagesse. N'est-ce pas? Car chaque parti, bien entendu, réclame ce désir de contribuer à une société plus juste, moins polluante, plus solidaire, plus performante pour la création des emplois, et ainsi de suite. Ce n'est pas facile de se repérer avec tout cela. Mais le royaume que Jésus démarrait doit encore venir dans sa plénitude. Le monde meilleur, parfait, est encore à venir. Le royaume est fiable, elle durera, il durera et ne passera pas. Ultimement, c'est ce royaume-là qu'il nous faut. Donc, continuons, chers amis, à persévérer. Je ne sais pas si vous vous souvenez, ici en Belgique, des Spice Girls, ça vous dit quelque chose? 5 jeunes femmes qui chantaient, n'est-ce pas? Apparemment, elles se réunissaient hier soir pour un nouveau tour du monde, 4 des 5, Victoria Beckham, d'autres préoccupations apparemment. Quel est leur plus grand tube? C'était Wannabe, si vous me suivez jusqu'ici. Si ça ne vous intéresse pas, vous fermez les yeux pour quelques instants. Alors, quelques mots d'anglais pour nous encourager. If you wanna be my lover, gotta get with my friends, make it last forever, friendship never ends. Donc tu veux être mon amour, il faut devenir mon ami, que cela dure pour toujours, car l'amitié dure sans cesse. Mais si, chers amis, l'amitié cesse. De manière spectaculaire, les Spice Girls ne sont pas restées amies. Ok? Il y avait rivalité, jalousie, de la haine. Elles se mettent de nouveau ensemble rien que pour gagner de l'argent. Évidemment. Mettre notre espoir dans ce que ce monde peut nous offrir, que ce soit amitié, richesse ou autre. Mettre notre espoir dans ce que vous cherchez à être dans ce monde-ci, c'est de rater les richesses que seul Jésus-Christ peut offrir. Jésus seul est capable de nous donner ce qui dure, pour toujours. Jésus est le Christ, le roi qui installe le royaume de Dieu. Patientez donc, chers amis. Tout comme Jean devait patienter. Il installe son royaume. Il délivrera son peuple. Réjouissez-vous que vous aussi, pendant cette période de la patience de Dieu, vous avez pu obtenir grâce pour vos péchés, grâce à cette bonne nouvelle de Jésus-Christ, mort et ressuscité. Que cette bonne nouvelle de Christ continue par conséquent à se répandre jusqu'au retour de Christ. Ça, c'était notre première question. Question posée par Jean à Jésus. Jésus, qui es-tu? Et notre deuxième question est une question que Jésus pose à propos de Jean. Verset 7, à l'heure du départ des disciples de Jean, Jésus se mit à dire aux foules à propos de Jean, « Qu'êtes-vous allé voir au désert ?» D'abord, il les taquine un peu. « Un roseau agité par le vent ?» Non, bien sûr que non. Pas Jean. La foule savait que Jean était un homme fort et courageux qui appelait les puissants à se repentir. Bon, ensuite, vous êtes venu pour un homme, veux-tu, avec raffinement? Non, bien sûr que non, car ceux qui s'habillent ainsi sont dans des maisons des rois. Mais où était Jean dans son ministère? Il était dans le désert, habillé comme un homme sauvage, là où il se nourrissait de sauterelles et du miel sauvage. Mais non, alors, il n'était pas un homme, veux-tu, avec raffinement, tout le monde le savait. Donc, il s'avoue que Jean n'est pas un homme ordinaire. Ensuite, Jésus s'approche de la vérité au sujet de Jean. Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Oui, dit Jésus, et plus qu'un prophète. Et avec cela, bien entendu, il dépasse maintenant leurs attentes à propos de Jean. Quand dire déjà que Jean était un prophète, c'est faire des éloges à son sujet, car il n'y a pas eu de prophète authentique en Israël depuis un long moment, 400 ans. Mais plus qu'un prophète, pourquoi il dit cela? Et donc c'est pour ça que je pense que la deuxième question revient à ceci. Jean, qui est-il? Qui est-il pour du vrai? Jésus nous pousse à réfléchir à cette question, car nous le verrons, si on comprend Jean, on comprendra mieux Jésus. Car Jean lui-même, nous dit Jésus, est le sujet d'une prophétie de l'Ancien Testament. Malachie, chapitre 3, verset 1, c'est juste avant le livre, avant Matthieu, c'est Malachie, dernier livre de l'Ancien Testament. Malachie 3, verset 1, que Jésus cite ici en Matthieu, dit, « Moi, c'est le Seigneur, j'envoie devant toi mon messager pour frayer ton chemin devant toi. » C'est ça ce que Jésus cite. Dans la prophétie de Malachie, c'est le Seigneur qui parle. Il enverra un messager devant sa venue à lui. À savoir, d'après Malachie, chapitre 3, verset 23, hein, Élie, il enverra Élie, c'est-à-dire quelqu'un qui ressemblera fort à Élie. Élie, bien entendu, c'était avant Malachie. Mais Élie prépara le chemin pour l'arrivée du Seigneur. Et cela place Jean dans une catégorie même supérieure aux autres prophètes. Car lui, Jésus le confirme au verset 14, est bel et bien l'Élie qui devait venir. Jésus affirme donc, verset 11, que parmi tout homme qui n'a jamais existé, il ne s'en est pas levé de plus grand que Jean le Baptiste. Il avait, lui, le privilège, hors pair, d'annoncer la venue du Seigneur. Jean est donc plus qu'un prophète. Il est plus grand, figurez-vous, qu'Abraham. Plus grand que Moïse. Plus grand que Josué, que David, Salomon, Ésaïe, Néhémie, Jérémie, et ainsi de suite. Alors, juste méditons cela pour un instant. Samuel m'a introduit comme prédicateur de ce jour, avant que je prêche. C'était gentil de sa part d'annoncer que Steve passait de l'église à aller prêcher. Alors imaginez-vous que moi maintenant, je disais que parmi ceux qui sont nés des femmes, c'est-à-dire tous les hommes, toutes les femmes, il ne s'en est pas levé de plus grand que Samuel. non pas parce qu'il a travaillé dans le domaine d'énergie à la Commission européenne, non pas parce qu'il enseigne à l'ULB, non pas parce qu'il est écrivain de nombreux livres, y compris sur la nature et à la foi, et le mouvement écologiste, il vient de sortir un nouveau livre à ce sujet, vous pouvez aller le voir par rapport à tout ça. Non, mais parce qu'il m'a introduit ce matin. Alors, quelle serait votre réaction si je disais cela? Pff, quelle prétention insupportable, n'est-ce pas? Le Brexit a rendu notre pasteur un peu fou. Ben, ce serait vrai. Lorsque Jésus pose la question « Jean, qui est-il ?» En réalité, il met la foule au défi à son sujet. Jésus, verset 15, « Que celui qui a des oreilles entende. » Jésus, bien sûr, se met dans une catégorie tout à fait à part que Jean, que nous, à un point qu'on appelle Jean le plus grand se base uniquement qu'il a pu introduire Jésus. Jésus est le Seigneur qui devait venir dans tous les prophètes et la loi prophétisée. Et c'est pour cette raison Jean est le plus grand. Cela aide à comprendre pourquoi, chose étonnante, verset 11 continue, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que Jean. Car être membre du royaume qu'annonce Jésus se fait par la foi en Jésus-Christ. Ce royaume-là, les grands personnages de l'Ancien Testament, inspiraient une voix. Ils attendaient le jour de la venue du Seigneur, mais ils ne l'ont pas expérimenté, car eux, ils précédaient Jésus-Christ. Ceux qui ont eu le privilège de pouvoir se tourner à Jésus grâce à sa mort et sa résurrection voient plus clair qu'Abraham, que Moïse, que David, que Jean-Baptiste. Placez aujourd'hui notre foi en Christ. Connaître que le Seigneur est venu sur terre une première fois pour sauver, et cela à travers son Fils incarné, Jésus le Christ, est un privilège inestimable. Nous sommes dans le sens de notre place dans l'histoire du salut. Nous sommes plus grands qu'Abraham, que David, qu'Ésaïe, que Jean. N'est-ce pas magnifique cela? Autour du café, ici, dans quelques instants, vous pouvez saluer les uns les autres en disant « Tiens, j'ai découvert quelque chose à votre sujet ce matin. Je ne savais pas, toi, que tu étais plus grand que Moïse. Oh, chapeau !» C'est vrai ? Comment ça ? Grâce à ta place dans l'histoire du salé. Mais cette vérité, à l'époque de Jean et de Jésus, n'a pas encore été saisie. Jésus parle ici de l'opposition virulente vis-à-vis du royaume des cieux. Cette violence, disait-il, continue à se manifester contre le royaume de Dieu. Des chrétiens continuent à nos jours à être persécutés rien que sur base de leur foi. Et donc les derniers versets, 16 à 19, nous poussent à réagir correctement à propos de Jésus. Car Jésus reproche la foule pour une réaction inappropriée à son sujet. Voici à quoi elle est semblable, cette génération, à des enfants assis sur les places publiques qui appellent les autres en disant « Nous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des complaintes et vous n'êtes pas lamentés. » C'est toujours un peu moche lors d'une fête, lorsque la musique démarre, mais il n'y a personne qui se met à danser. Ou si lors d'un moment de deuil, quelqu'un agit comme si rien n'était. « Ça va, mon ami? Tout va bien? » « Non, tu vas pas bien. Okay? » Il faut agir de manière appropriée aux circonstances. De manière semblable, c'est la cloche, continue Jésus. « Vous dites de Jean qu'il avait un démon, vous dites du Fils de l'homme, de Jésus, que simplement parce qu'il mange avec des personnes de mauvaise réputation, des pécheurs, qu'il est un glouton et un buveur, au lieu de tourner à Jésus dans la repentance et la foi, il pense encore que Jésus n'est pas conforme à ce qu'il cherchait. On le critique. Mais, dit Jésus, la sagesse est justifiée par ses œuvres. Les vies Les œuvres de Jean et de Jésus témoignent de la véracité, de la sagesse de Dieu. Ils sont dignes de confiance. Et c'est là, alors, chers amis, nous terminons. Jésus est le Christ. Dieu lui-même qui vient vers nous, les hommes. Il annonce le royaume. Il fait des œuvres qui donnent un avant-goût de ce royaume. Comment allons-nous réagir face à lui? Heureux, dit Jésus, celui pour qui je ne serai pas une cause de chute, que celui qui a des oreilles entende. Fortifions-nous en lui si nous sommes déjà en lui. Tournons vers lui si nous ne le connaissons pas encore tel qu'il est. Soyons reconnaissants pour ce privilège de voir Jésus mort et ressuscité. Patientons pour la délivrance dont prophétisaient les prophètes. Croyons en lui. Il est simplement trop important pour faire autrement. Prions ensemble. Merci Seigneur pour ce privilège d'être rappelé de l'importance de Jésus dans sa position unique dans l'histoire du salut. Le privilège donc que nous avons de pouvoir nous tourner vers Jésus parce qu'il est mort, il est ressuscité pour nous. Et donne-nous, Seigneur, nous te prions de persévérer. Donne-nous de continuer à marcher en lui, continuer à proclamer cette bonne nouvelle pendant cette année de grâce. Nous te prions, Seigneur, de nous fortifier aussi en sachant que toute injustice sera réglée, que tu reviendras. Et à ce moment-là, ce royaume viendra dans toute sa plénitude. Encourage-nous. Maintenant, lorsqu'on fait des échanges les uns aux autres après, tout au long de cette semaine. Et cela pour ta gloire, nous te prions. Amen.